C'était, nous l'avons rappelé, le livre favori de Jésus. Ou du moins l'un des livres qu'il a le plus cité pendant qu'il a marché sur terre. Nous avons expliqué que le Deutéronome, ça voulait dire la seconde annonce de la loi. Et nous avons dit aussi que c'était le plus long sermon de l'histoire. Moïse rappelle à la nouvelle génération les lois que Dieu lui a données. C'est un long sermon. Et nous arrivons aujourd'hui, Dieu voulant, à la fin de cette étude. Que nous avons commencé, si vous l'avez oublié, il y a près de 6 mois. Et le héros de ce livre, bien sûr l'Éternel qui est le rocher, ce rocher qui est un type, une préfiguration de Jésus-Christ. Mais au point de vue humain, bien sûr, le héros, c'est notre ami Moïse. L'homme le plus humble qui ait jamais marché sur la terre. Et aujourd'hui, nous allons voir comment il va bénir le peuple d'Israël. Avant de mourir. Ce livre aussi, c'est la fin, nous arrivons à la fin de ce qu'on appelle le Pentateuque. Penta, c'est 5, les 5 livres qui constituent la loi, la Torah. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Pendant longtemps, on a pensé, des critiques ont dit que Moïse ne pouvait pas avoir écrit ses livres parce que l'écriture n'existait pas. Mais les recherches, les découvertes archéologiques de ce siècle ont prouvé que l'écriture existait bien avant lui. Moïse a été celui qui a écrit ces 5 livres, avec l'exception peut-être du dernier chapitre qui parle de sa mort. Mais il est possible aussi qu'il ait eu une révélation prophétique et qu'il ait lui-même écrit sa rubrique nécrologique. La semaine dernière, nous avons étudié le Cantique de Moïse. Qui en même temps célébrait la fidélité, la puissance du Seigneur. Et en même temps l'infidélité, la faiblesse du peuple d'Israël. Et nous avons vu que à la fin, le Seigneur avait parlé à Moïse en lui disant « Monte sur la montagne, voir le pays de Canaan. » Mais le Seigneur lui dit « Tu verras le pays, mais tu n'entreras pas dans le pays que je donne aux Israélites. » Pourquoi une telle punition? Parce que Moïse n'avait pas représenté correctement l'Éternel dans sa grâce infinie au peuple d'Israël. Et ça nous parle aussi de la terrible responsabilité que nous avons en tant que chrétiens de représenter Dieu fidèlement à ceux qui nous entourent. Lorsque je m'emporte, lorsque je m'énerve, souvent mes enfants me disent « Tu te dis un témoin, papa ?» Quel grand témoin. Oh, c'est vrai. Nous avons tous cette responsabilité d'être de bons témoins de l'Éternel. Dans le cas de Moïse, on peut dire, c'est quand même un peu gros. Comment est-ce qu'il va réagir? Aujourd'hui, on imagine facilement qu'il dirait, c'est pas juste! J'ai fait tout le boulot. Au dernier moment, je ne peux même pas en bénéficier. Ça fait 40 ans que je me les coltine. Qui n'arrête pas de rouspéter. Si on les lâche une minute, ils tombent dans l'idolâtrie. J'ai marché avec eux pendant 40 ans. J'arrive juste à l'entrée et Dieu, tu me dis que je ne vais pas pouvoir rentrer? Eh bien, merci. Puisque on me traite ainsi, moi je donne ma démission aujourd'hui même. Mais Moïse ne va pas réagir comme ça parce que lui-même nous a dit au chapitre 32 que Dieu, l'Éternel, est le rocher. Il nous a appris que toutes les voies de Dieu sont équitables. Au verset 4, il nous dit, c'est un Dieu fidèle et sans injustice, c'est lui qui est juste et droit. Même si cette décision lui fait tellement de mal, nous allons voir la grandeur de son attitude, il accepte cette décision. Et le premier verset nous présente ce passage en disant, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les Israélites avant sa mort. 33:1. Homme de Dieu. C'est la première fois que l'expression est utilisée dans la Bible. Et si je crois que si elle est utilisée, c'est parce que dans ce moment précis, au lieu de se plaindre, au lieu d'avoir les yeux fixés sur lui, son souci, c'est de bénir les autres. Son souci, c'est de se demander comment est-ce que je peux bénir ces autres qui m'entourent. Vous vous souvenez qu'après l'épisode du veau d'or, quand Moïse, qui était sur la montagne, était pour recevoir les tablettes de la loi de la part de Dieu. Il redescendait, et là il trouve une orgie en cours, Pharaon et le peuple avaient forgé un veau en or qu'ils adoraient dans des pratiques d'orgie. Et Moïse déjà avait montré son cœur pour ce peuple. Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Mais Moïse demande à Dieu de les pardonner. Pardonne-leur maintenant leur péché. Il va même jusqu'à proposer à Dieu de le punir, lui, à leur place. Il dit à Dieu, « Sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Enlève, annule mon salut. » Il a déjà dû nommer son successeur, Josué. Et dans cette situation, il aurait été facile de dire, « Allez, bonne chance, Josué. » Je te souhaite bien du plaisir. Ça ne va pas être de la tarte. Ou alors il aurait pu simplement choisir de bouder. De faire de la résistance passive. Oh, je suis là, mais je fais le minimum. Qu'est-ce que vous faites quand les choses ne vont pas dans le sens que vous voulez? Est-ce que vous vous mettez en colère contre ceux qui vous entourent? Contre Dieu même? Ou alors, peut-être que c'est un peu, ça fait un peu peur de se mettre en colère contre Dieu. C'est une bonne chose d'avoir peur de se mettre en colère contre Dieu. Et peut-être que vous faites de la résistance passive. Ou avec Dieu, on ne sait jamais, il vaut mieux se tenir un peu à l'écart. Ou est-ce que vous croyez que Dieu est juste? Que Dieu sait toutes choses? Qu'il vous aime? Et est-ce que vous pouvez accepter la situation dans laquelle vous vous trouvez? C'est tout dans l'attitude que nous avons. Lorsque je suis contrarié dans mes plans, est-ce que je suis pénible à vivre? Ne demandez pas à ma famille. Peut-être demandez-leur. Parce que je confesse que je ne suis pas drôle à vivre. Et c'est parce que je fixe les yeux sur moi, sur ma situation. Si je cherche à faire du bien autour de moi, à être une bénédiction, alors tout change. Le Seigneur est content de cette attitude. Est-ce que je cherche toujours à être béni ou est-ce que je cherche à bénir les autres? Dieu nous a dit ce paradoxe incroyable. Si on cherche à retenir sa vie, on va la perdre. Si nous sommes prêts à la donner, alors nous la gagnons. Quel paradoxe! Quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai dit, c'est tellement différent de ce qu'on croit généralement. Il n'y a pas de doute, c'est la vérité de Dieu. Et pour ceux qui ont fait l'expérience de donner au lieu d'essayer de recevoir, vous savez que c'est la vérité. Si vous n'avez jamais adopté ce genre d'attitude, je vous invite fortement à le faire. Vous serez tellement surpris. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il va vous bénir en retour. Vous n'allez plus souffrir, vous allez être heureux, vous allez avoir la paix. Il faut la foi dans la parole de Dieu pour faire cela, mais lorsque nous avançons dans la foi, Dieu nous confirme par l'expérience. Je me souviens, je l'ai déjà partagé, j'avais un ami qui me disait lorsqu'il venait au culte de dimanche, il priait avant de savoir comment il pouvait être un encouragement, une bénédiction pour différentes personnes. Il ne venait pas en disant est-ce qu'on va me donner quelque chose, est-ce que je vais être apprécié, il ne cherchait pas à être béni, il cherchait à bénir. Sûr, il y a des moments où on a tellement de besoins qu'on a du mal à donner. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de ressources physiques, matérielles. C'est une question d'attitude. On peut même avoir des grands besoins, qu'ils soient matériels, émotionnels. Mais si on cherche à aider, à donner, ces mathématiques sont des mathématiques divines, on est béni. C'est difficile à comprendre au naturel, mais ça marche. Quand vous venez ici, est-ce que vous voyez des choses qui ont besoin d'être faites? Si vous les voyez, peut-être le Seigneur veut que vous fassiez quelque chose à propos de ces choses. Le Seigneur nous permet de grandir un peu. Il y a des enfants qui se multiplient, gloire à Dieu. Vous les voyez qui commencent à, c'est normal, bien normal, à courir, à crier, à chanter, ou à se battre. Peut-être que vous dites, ce serait bien si quelqu'un les supervisait un peu. Si vous voyez ça, faites-le. Vous voyez quelqu'un qui a l'air un peu abattu, allez leur parler. Invitez-les à passer le déjeuner ensemble. C'est dans l'attitude. C'est pas dans la richesse matérielle. Lorsqu'on fait ça, je crois qu'on est des hommes et des femmes de Dieu. Philippiens nous dit que Jésus, lorsqu'il est venu, il n'a pas cherché à arracher la gloire qui lui appartenait, d'être égal avec Dieu, le Père. Il s'est donné. Et Moïse va faire la même chose. Il va chercher à bénir, à encourager. Et verset 2, il nous dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Sire, il a resplendi de la montagne de Paran, il est sorti du milieu des saintes myriades, il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il chérit les peuples. Tous ces saints sont dans ta main, Ils se sont tenus à tes pieds, il est ton porte-parole. Moïse nous a prescrit la loi, propriété de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Yeshurun, ou c'est un autre nom pour Israël, quand se réunissaient les chefs du peuple ainsi que les tribus d'Israël. Il s'adresse encore une fois aux tribus d'Israël. Il leur dit que comme un soleil, le Seigneur l'Éternel a resplendi sur eux. Il était entouré de ces saintes myriades, on pense que c'était des anges. Et par eux, il a donné sa loi à Moïse. Il est question du feu de la loi. La loi est puissante, la loi est parfaite. La loi fait un peu peur comme le feu, peut faire peur. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout de suite après avoir dit qu'il a donné le feu de la loi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, il chérit les peuples. Et les peuples, c'est pas seulement les tribus d'Israël, c'est tous les peuples de la terre. Mais ce qui est frappant, c'est le rapport entre le fait que Dieu a donné la loi et le fait que Dieu aime les hommes. On a trop souvent l'impression que les 10 commandements, c'est pour empêcher d'être heureux. Fais pas ci, fais pas ça. Qu'est-ce que c'est rabat-joie? On a l'impression que Dieu s'est demandé comment nous rendre malheureux. Alors qu'en fait, c'est justement le contraire. Il nous donne sa loi parce qu'il nous aime. Pour prendre une analogie dans le droit français, il est interdit de boire et de conduire. C'est vrai que c'est pas drôle si on peut pas se saouler la caboche et prendre la voiture. C'est pas la liberté, ça. Non, mais c'est la protection. C'est la protection du conducteur qui se saoulerait. Et la protection des autres. Et la loi, elle est donnée pour nous protéger. La loi est donnée parce que Dieu nous aime. La loi est même donnée, nous le verrons dans le Nouveau Testament, pour nous montrer que nous avons besoin d'aide. Pour nous montrer que nous n'arrivons pas dans notre force humaine à respecter les 10 commandements. Et pour nous donner soif de quelqu'un qui viendrait nous aider. La loi nous donne soif de Jésus-Christ. Et ça aussi, c'est une preuve que Dieu a donné sa loi par amour pour nous. Après avoir ainsi commencé cette bénédiction par un hymne à l'amour de Dieu, à la gloire de Dieu, Moïse va parler spécifiquement des différentes tribus d'Israël. Et ce n'est pas sans rappeler une autre bénédiction qu'on trouve à la fin du livre de la Genèse. Lorsque dans la Genèse 49, Jacob bénit ses enfants. Vous vous souvenez qu'Abraham avait épousé Sarah. Qu'ils avaient eu Isaac. Isaac avait épousé Rebecca. Et que leur enfant, c'était un dénommé Jacob. Il y avait un autre, il avait un frère. Mais il a volé à son frère le droit de succession, le droit de la promesse. Et puis dans la Genèse, on apprend que Jacob était tombé amoureux de Rachel. Et qu'à partir de ce moment-là, les choses s'étaient compliquées. Le père de Rachel lui avait donné par un subterfuge la sœur qui était plus âgée. Rachel ne pouvait pas au départ avoir d'enfants. Entre les deux, il y a une espèce de compétition pour avoir des enfants. Et Rachel, qui ne pouvait pas avoir d'enfants, a dit, mais Jacob, pourquoi tu n'as pas des enfants avec ma servante, Bila? Et puis, lorsque Léa a eu du mal à avoir des enfants, elle a recouru au même subterfuge. Donc, en fait, Jacob a eu des enfants avec 4 femmes. Et il a eu 12 enfants ainsi. Un bon endroit, des fois ça peut être un peu difficile à s'y retrouver. Sachez qu'il y a un petit résumé dans la Genèse 35 à la fin du chapitre. Versets 23 à 26 nous rappellent qui étaient les fils de Léa, les fils de Rachel, les fils de Bila, les fils de Zilpa. Et donc il y avait 12 enfants et on parle souvent globalement des 12 tribus d'Israël. Parce que ces enfants sont devenus les patriarches de ces tribus, ils ont eu des grandes familles. Et ça peut être aussi un sujet de confusion, parce que Joseph, qui était un des fils de Jacob, a eu 2 enfants, Manassé et Éphraïm, avec une Égyptienne. Éphraïm. Et donc au total, on peut se retrouver des fois avec 14 tribus. Mais souvent, Joseph n'est pas cité, parce qu'on cite ses 2 enfants. La tribu de Lévi, c'était la tribu des prêtres qui n'avait pas de territoire à proprement parler. Donc ça c'est juste pour, des fois, si vous lisez la Bible vous-même et que vous êtes un peu perdu. Sachez qu'en gros, il y avait 12 tribus. 12, c'est un nombre symbolique dans la Bible. C'est le nombre qui représente le gouvernement humain. Il y avait 12 apôtres. 12 tribus. Dans l'année, il y a 12 mois. Les journées sont 2 fois 12. Peu importe le détail de ces tribus. Nous allons voir que, à part la tribu de Siméon, toutes les autres tribus sont citées. Il commence au verset 6 en parlant de Ruben. Ce qui est intéressant, si c'est dans la Genèse, on peut lire le sens de chacun des noms de ces tribus, de ces enfants de Jacob. Parce que le nom dans la culture hébraïque était souvent en relation avec les circonstances de la naissance ou d'une prophétie ou d'un caractère de la personne. Et le nom de Ruben, ça veut dire « voyez un fils ». C'était le premier fils de la sœur de Rachel. Elle était toute fière. Voyez un fils. Et là, on n'a pas vraiment le temps d'entrer dans les détails de l'histoire qu'on peut lire dans la Genèse, dans l'Exode. Mais Ruben avait péché contre son père en couchant avec sa compagne. Mais dans la grâce du Seigneur, la bénédiction vient quand même s'il n'est pas nombreux, qu'il vive. Éternel, la voix de Judas, ramène-le vers son peuple, que ses mains le défendent et que tu lui sois en aide contre ses adversaires. Donc Moïse appelle Dieu à aider Judas spécialement. Dans le livre des Noms, nous avons vu qu'il y avait un ordre de marche des tribus d'Israël. Et Judas était à la pointe du combat. C'est intéressant de savoir que Jésus allait lui-même descendre de cette tribu de Judas. S'il y a quelqu'un qui est bien à la pointe du combat, c'est notre grand prêtre Jésus. Donc, Judas est à l'honneur parce qu'ils sont à la pointe du combat. Une implication, c'est de réaliser des fois que les gens qui ont des honneurs sont à la pointe du combat. Des fois, on envie leurs honneurs, mais on n'a rien à faire de leur combat. Il ne faut pas envier les honneurs si on ne veut pas accepter les combats, les luttes. Verset 8, il parle de Lévi, qui veut dire « il s'attache ». Parce que lorsqu'il était né, Léa se disait « Jacob va vraiment s'attacher à moi, c'est moi qui lui donne des enfants ». Et comme dans la Genèse, si les tribus de Juda et de Lévi sont particulièrement mises en évidence dans ces bénédictions, comme ici, c'est parce qu'ils avaient l'un la suprématie politico-militaire et les autres, la tribu de Lévi, c'était la suprématie religieuse, c'était la tribu des prêtres. Moïse et Aaron étaient de cette famille. Et verset 8, il est dit sur Lévi, il dit, tes Toumim et tes Ourim ont été confiés à l'homme fidèle envers toi que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba. Peut-être que dans votre version, on ne parle pas des Toumim et des Ourim, mais des perfections et des lumières. Si vous vous souvenez, dans l'étude de l'Exode et du Lévitique, on parle de ces Toumim et de ces Ourim. Comme des instruments par lesquels le grand prêtre pouvait aider les gens à trouver la volonté de Dieu. Certains pensent que c'était peut-être des deux pierres blanches, des pierres blanches et noires. Et que quand il y avait une décision à prendre, le grand prêtre pouvait tirer une des pierres. Si c'était blanc, c'était oui. Si c'était noir, c'était non. Une autre possibilité, c'est qu'on sait que sur son uniforme de grand prêtre, Aaron puis ses successeurs portaient 12 pierres précieuses, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Il les portait sur son cœur. Et cette semaine, vous avez peut-être vu à la télé l'explosion de la statue du mont d'Arom. C'était une statue de 30 mètres à Castellane représentant le gourou cosmoplanétaire. Si elle n'était pas prise au sérieux par des gens apparemment raisonnables, ça ferait rire. Parce que je ne savais pas, mais j'ai vu des images, et en fait, il avait une petite lumière qui brillait sur le front. C'était alimenté par l'électricité, ce n'était pas un miracle, hein, je vous rassure tout de suite. Et un peu dans la même idée, certains pensent que peut-être les pierres que le grand prêtre portait sur sa poitrine, sur son corps, peut-être certaines s'allumaient ou s'illuminaient. Et qu'il y avait peut-être un code pour savoir quelle était la réponse de Dieu aux questions que les gens se posaient. Tout ce qu'on sait, c'est que ça servait à déterminer la volonté de Dieu. Même si c'est très hypothétique, on peut retenir des leçons pour trouver la volonté de Dieu pour notre vie. Nous savons que lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, nous devons venir au grand prêtre. Notre grand prêtre, à nous, le Nouveau Testament l'explique très bien, c'est Jésus-Christ. Et on ne vient pas le voir en lui demandant « montre-moi le chemin ». Parce que Jésus a dit, notre grand prêtre, il a dit « je suis moi ». Le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jésus n'a pas dit, je vais vous montrer le chemin. Souvent on vient à lui, on est prêt à prendre des notes. pour avoir les directives et pour partir avec ses ordres de route par nous-mêmes. Non, Jésus a dit, je suis le chemin. Le Seigneur nous dit, si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit. Si vous restez comme accroché à moi, alors vous serez sur le bon chemin. Un peu comme les petits bébés, portés par leur maman ou leur papa sur la poitrine. Vous savez, c'est des fois, ils sont dans des petits sacs à dos sur le devant. Là. Je crois que Becky porte toujours Emma dans un petit sac comme ça, ou au moins elle la porte. Et Emma ne se dit pas, tiens, j'aimerais bien rentrer à la maison, déjeuner à midi, je vais demander les instructions à maman. Oui, Abigail, tu descends les marches, tu attends que la lumière change pour traverser la rue, je te donne la clé. Non, elle ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'elle fait, Emma? Elle s'agrippe. Elle s'accroche à sa maman. Parce qu'elle sait que le chemin pour rentrer à la maison, c'est Becky. Trop souvent, nous cherchons la volonté de Dieu pour savoir où il veut que nous allions. Il dit, je suis le chemin, accrochez-vous à moi, demeurez en moi. Une autre leçon, c'est que ces pierres précieuses du grand prêtre, il les portait sur son cœur. Et Dieu a dit qu'il allait écrire son alliance dans nos cœurs. Il nous porte sur son cœur, mais il met aussi sa volonté dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on peut dire « Aime Dieu et fais ce que tu veux ». Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, alors tout ce que nous voudrons seront des choses qui seront selon sa volonté. Tout ceci s'appliquait bien sûr à Israël. Mais une autre leçon, c'est que la famille de Dieu, elle est composée de pierres précieuses. Tous autant que nous sommes ici, nous sommes des pierres précieuses aux yeux de Dieu. Des fois, on dit qu'on n'a pas de valeur intrinsèque. Dieu nous dit, tu es une pierre précieuse. Parce que nous le croyons. Il l'a prouvé à la croix. Il continue, Moïse, en disant que Lévi n'avait pas regardé, distingué ses frères, il n'avait pas connu les fils. Ils observent ta parole, verset 9, et gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob, c'est-à-dire aux Israélites, et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'offrande entière sur ton autel. Verset 11, il dit même, il demande à Dieu de faire du mal à ceux qui s'opposent, à ceux qui enseignent la parole. Il passe à Benjamin, verset 12. Le fils de ma main droite, celui qui a toute la puissance que j'avais. C'est le bien-aimé de l'Éternel, il demeure en sécurité auprès de lui, l'Éternel l'abrite toujours et demeure entre ses épaules. Verset 13, Certaines versions traduisent c'est Benjamin qui demeure entre les épaules de Dieu. C'est vrai que être tout près de Dieu, c'est toujours le meilleur endroit. L'autre façon de voir les choses, c'est que les épaules de Benjamin, si c'est de Benjamin qu'il s'agit, représentent deux montagnes entre lesquelles se trouve Jérusalem. Première indication que le temple devrait être construit à Jérusalem. Puis il parle de Joseph, verset 3. Il sera béni par la largesse du ciel, la rosée, l'eau, qui est une grande richesse dans ces pays du Moyen-Orient. Verset 16, que la faveur de celui qui demeure dans le buisson, il s'agit de l'Éternel qui était apparu à Moïse dans le buisson ardent, vienne sur la tête de Joseph. Verset 17, il en parle comme d'un taureau, il avait une grande puissance, Joseph. Il allait frapper les peuples tous ensemble, verset 17. Jusqu'aux extrémités de la terre, telles sont les myriades d'Éphraïm, telles sont les milliers de Manassé, par ces deux enfants qu'il avait eus et ces deux tribus, c'était comme des cornes pour Joseph. Les cornes sont les cornes du buffle, verset 17. On peut penser aussi à Jésus qui est représenté symboliquement dans Joseph, dans son histoire. Qui allait toucher les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Rappelez de Acte 1:8. Quand les disciples reçoivent l'Esprit Saint pour être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Versets 18 et 19 parlent de la tribu de Zabulon. Réjouis-toi, Zabulon, dans tes expéditions, et toi, Issachar, dans tes tentes. Verset 19 est très intéressant historiquement, prophétiquement. Ils appelleront les peuples sur la montagne, là ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Géographiquement, Zabulon était au nord ouest d'Israël, touchant la Méditerranée. La région où on a construit le port d'Haïfa en Israël moderne. Et vous savez que les pays du Moyen-Orient, les pays arabes, sont très riches en pétrole. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est grâce à la Bible que le pétrole a été trouvé. C'est un certain John D. Rockefeller qui avait une petite compagnie qui s'appelait Standard Oil au Texas, mais qui était chrétien et qui lisait sa Bible tous les jours. Il avait lu que dans le récit de la tour de Babel, que les gens qui construisaient cette tour utilisaient des briques et du bitume pour mortier. Et il connaissait un peu la géologie, il s'est dit, s'il y a du bitume, il doit y avoir du pétrole. Il a donc envoyé une équipe en Irak. Et c'était l'origine de la richesse pétrolière des pays de cette région. Certains juifs reprochent à Israël d'avoir pris un mauvais tournant. Parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé de grandes réserves de pétrole en Israël. Mais de la même façon, il est probable, pour certains géologistes, qu'on devrait trouver beaucoup de réserves du côté de la mer Morte. Et il y a à Haïfa un grand pipeline qui suce l'abondance vers la mer, qui amène les trésors cachés dans le sable, les trésors de l'or noir. Intéressant fait historique. Il prie sur Gad, il prie pour Gad, verset 20. Il prie, dont le nom signifie juge. Il prie sur Naphtali. Il prie sur Aser. Il est dit là qu'il soit en faveur à ses pierres, qu'il plonge son pied dans l'huile. Fort de l'expérience de Rockefeller, il y en a qui ont recherché du pétrole dans la région de Hazer, sans succès pour l'instant. Et il termine donc en disant que ta santé dure autant que tes jours. Verset 25. Il reprend verset 26 un hymne à la gloire de Dieu. Nul n'est semblable à Dieu, Dieu est unique. Ô Israël, il chevauche les cieux pour venir à ton secours et les nuées dans sa majesté. Verset 26. Et nous arrivons au verset 27 qui mériterait un sermon tout entier sur lui. Le Dieu d'éternité est un refuge. Sous toi se trouvent des bras éternels. Devant toi, il a chassé l'ennemi en disant « Extermine ». Certains d'entre nous ont entendu Chuck Smith, à l'origine du mouvement Calvary Chapel, parler de ce verset. En disant de réaliser la puissance infinie de Dieu. Prenez l'exemple dans la constellation d'Orion, de l'étoile qui s'appelle Bételgeuse. Bételgeuse, qui a 725 millions de kilomètres de diamètre. C'est assez de place pour mettre à l'intérieur, si on vidait l'étoile, on peut mettre le soleil et la Terre orbitant autour d'elle, autour de lui. Il y aurait encore 160 millions de kilomètres de rab à l'intérieur. Cette étoile gigantesque, elle se déplace à la vitesse de 1900 km par seconde. 1900 km par seconde. Et Chuck disait, vous avez déjà vu les départs des navettes spatiales. Ou des fusées Saturne qui ont emmené des hommes sur la Lune. Et vous savez que lui avait été là-bas, mais même en voyant la télévision, on voit cette puissance, ce feu qui se dégage, ce tremblement. Et ce qui est curieux, c'est que rien ne bouge pendant un bon moment. Rien ne bouge. Il y a une lumière aveuglante. Puis finalement, ça se lève un peu lentement. Et il faut que ça arrive à la vitesse record de 11 km par seconde. La vitesse de 11 km par seconde, ça correspond à la vitesse qui vous permet de lancer un caillou qui retombe plus loin que la courbe de la Terre. Si vous avez des questions, demandez à Rémi de préciser tout ça. Mais un satellite, c'est un objet qui n'arrête pas de tomber autour de la Terre, parce qu'il rate la Terre, sans arrêt. Et on est tellement impressionné par la puissance de ces fusées. Et Chuck dit, imaginez la puissance qu'il a fallu pour envoyer à une vitesse 170 fois plus grande une masse qui est des milliards de fois plus lourde que ses satellites ou ses fusées. Et le psalmiste nous dit que les cieux sont l'ouvrage des mains ou même des doigts de Dieu. La lune et les étoiles qu'il a établies, il les a fait avec ses doigts. Cette gigantesque étoile qui caracole dans l'espace à une vitesse de 1900 km par seconde, s'il a des doigts aussi puissants, quelle doit être la puissance de ses mains? Jésus nous dit qu'il nous tient dans ses mains. Ici, Moïse nous dit que sous nous avons des bras éternels. Imaginez les biceps de Dieu. Est-ce que je ne peux pas être certain qu'il va me soutenir dans toutes les situations? Sous moi, aussi bas que je tombe. Il y a toujours ses bras éternels, ses bras si puissants. Ça nous rappelle l'image de l'aigle qui vient ramasser ses petits à qui il apprend à voler. Verset 28. Israël demeure en sécurité, la source de Jacob est à part dans un pays de blé et de vin nouveau, et ton ciel distille la rosée. Heureux es-tu, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta majesté, tes ennemis défailleront devant toi, et tu fouleras leur haut lieu. Et nous pouvons répondre, nous sommes, comme Israël, un peuple sauvé par l'Éternel. Heureux sommes-nous. Finalement, le verset 34 décrit la mort de Moïse. Verset 4, l'Éternel le fait monter et lui dit, je le donnerai, regarde ce pays, je le donnerai à ta descendance, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Et détail intéressant, il est dit que Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'ensevit dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth Peor, mais personne n'a connu son tombeau jusqu'à ce jour. On peut penser que si on avait connu l'endroit, ça serait devenu un lieu de pèlerinage. Avec toute l'idolâtrie qui s'y attache. Dans Jude, il est question aussi d'une dispute à propos du corps de Moïse entre l'archange Michel et le diable Satan. Michael. En fait, dans l'Apocalypse 11, on retrouve deux témoins qui, Élie et Moïse probablement. Qui allaient annoncer le salut dans le Seigneur, annoncer aux Juifs que leur Messie est Jésus. Sans doute que Satan voulait tout faire pour éviter ce témoignage. C'est important de voir dans ce combat entre Michaël et Satan que Satan n'est pas comparable à Dieu. On ne dit pas Satan se battait contre Dieu. Et Michaël lui-même, il est dit dans Jude, n'a pas essayé d'affronter Satan tout seul. Il a dit que le Seigneur te réprime. Et ça, c'est très important pour nous aujourd'hui. Lorsque nous nous sentons attaqués par Satan, n'allons pas parler avec Satan. Envoyons le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit entre nous et Satan. Finalement, la fin, Moïse, verset 7, était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas éteinte et sa vigueur n'avait pas disparu. Les Israélites